Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre Jiří Paroubek est en visite de deux jours en France. La Tchéquie renforce les mesures pour lutter contre la grippe aviaire. Une nouvelle aide humanitaire est en train d'être acheminée au Pakistan. Le président français Jacques Chirac a reçu à l'Élysée le premier ministre tchèque Jiří Paroubek. Au cœur de leur discussion, la libre circulation de la main-d'œuvre et le budget de l'Union européenne pour les années 2007-2013. Jiří Paroubek croit qu'un compromis sera trouvé en ce qui concerne la libéralisation de l'emploi de certains groupes de travailleurs tchèques sur le marché du travail français. Les possibilités concrètes seront examinées par les ministères du travail et les affaires sociales de deux pays. La Tchéquie intensifie les mesures préventives nécessaires pour lutter contre la grippe aviaire qui s'est rapprochée la semaine écoulée des frontières de l'Union européenne après que l'apparition du virus avait été confirmée en Roumanie. Outre l'interdiction des importations de la volaille des régions à risque, elle renforce le contrôle et les examens de laboratoire des oiseaux importés des pays tiers. Un autre avion de l'armée tchèque avec à son bord deux médecins, un groupe de secouristes et 12 tonnes de matériel humanitaire s'envole mardi pour le Pakistan pour y rejoindre une équipe de 23 secouristes partis il y a quelques jours dans la région au nord d'Islamabad sinistrée par le séisme. Le consortium pétrochimique polonais PKN Orlen est d'accord de payer un supplément d'1,645 milliard de couronnes pour le rachat des parts de l'État tchèque dans le groupe pétrolier Unipetrol. La partie polonaise payera ainsi un total de 14,7 milliards de couronnes. Le vice-premier ministre Martin Yan quittera d'ici à la fin de l'année ses fonctions. Il a refusé sa candidature pour le Parti social-démocrate aux prochaines élections. Le chef du gouvernement et de la social-démocratie, Jiří Paroubek, a confirmé avoir négocié avec l'ancien commissaire européen Pavel Telička de son éventuel engagement dans le cabinet. La photographie de Václav Jirsa saisissant le cycliste allemand Erich Winkler, médaille de bronze aux Jeux paralympiques d'Athènes, est devenue la photographie de l'année dans la catégorie reportage au concours Czech Press Photo. Le bilan du week-end écoulé sur les routes tchèques est le plus tragique depuis le début de l'année. Plus de 1500 accidents et 19 personnes mortes. Un ciel couvert avec quelques éclaircies, des précipitations passagères et des températures comprises entre 8 et 12 degrés sont prévues pour mardi, jour de fête des Lukács. C'était les informations avec Jarka Gusublova.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Le premier ministre tchèque Jiří Paroubek est en visite officielle en France. Grâce à notre correspondante qui l'accompagne, nous avons pu suivre la première journée de cette visite. Les contacts diplomatiques entre les deux pays étant particulièrement intenses ces derniers temps, nous vous présenterons une appréciation de ces liens par M. Jean-Pierre Soisson, chef du groupe d'amitié France-République tchèque à l'Assemblée générale. Des canyons aux étoiles, l'œuvre d'Olivier Messiaen a été présentée dimanche à Prague. Vous pourrez écouter une confession de Michel Svierczewski, chef d'orchestre français, qui l'a exécutée. Le pape Benoît XVI a décerné à l'évêque Václav Mali, ancien dissident et personnalité très populaire dans son pays, le prix Jean-Paul II. Nous vous en dirons plus à la fin de ce programme. Commençons donc par la visite de Jiří Paroubek, Premier ministre tchèque à Paris.
La construction européenne sous des angles différents et les relations bilatérales, voilà deux sujets phares de la première visite officielle du Premier ministre tchèque Jiří Paroubek à Paris depuis son entrée en fonction au printemps dernier. Lundi, juste après son arrivée dans la capitale, Jiří Paroubek a été reçu par Jacques Chirac à l'Élysée. Au cours de leur entretien, suivi d'un déjeuner de travail donné à cette occasion par le chef de l'État français, maintes questions européennes ont été abordées, notamment la reprise des négociations sur le budget européen pour la période 2007-2013 qui ont échoué il y a 4 mois environ. Elle devrait être, comme le souhaitent les représentants tchèques, mise à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Union européenne en Grande-Bretagne à la fin du mois d'octobre. La libéralisation du marché du travail européen, tant discutée ces dernières semaines à Prague et à Paris, est aussi un des principaux thèmes de conversation entre le chef du gouvernement tchèque et ses interlocuteurs français. Parmi eux, il y a eu lundi soir le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. La rencontre de Jiří Paroubek avec l'homme de Matignon, Dominique de Villepin, prévue pour mardi, étant annulée pour des raisons de politique intérieure en France. Politique, mais aussi économie, commerce, enseignement et culture sont au menu de sa visite. Mardi matin, Jiří Paroubek s'entretiendra avec des chefs d'entreprise et des investisseurs français. Mardi encore, avant de s'envoler pour Prague, le chef du cabinet doit discuter avec le chef du Parti socialiste français, François Hollande. Rappelons leur dernière rencontre à Paris en mai dernier, qui a précédé le référendum négatif sur le projet de constitution européenne en France. Un débat sur l'évolution des choses est donc attendu. L'épouse du Premier ministre Zuzana Paroubková, connue pour ses attaches aux pays francophones, rendra visite mardi à des enfants malades à l'hôpital Armand Trousseau dans le 12e arrondissement de Paris avant de faire un tour dans une maison familiale destinée à des familles en difficulté et dont la construction a été financée par l'opération des pièces jaunes. Magdalena Segertova, Paris, Radio Prague.
À en juger par la fréquence des visites des représentants politiques tchèques en France et vice-versa, ces derniers temps, les relations entre les deux pays se portent bien. Un avis de M. Jean-Pierre Soisson, qui dirige le groupe d'amitié France-Tchéquie à l'Assemblée nationale, que j'ai pu rencontrer récemment à Paris.
Je voudrais que ce soit en un stade de reprise des relations, qui ont été des relations mouvementées, qui n'ont pas toujours été très bonnes. Mais je pense que les échanges qui ont lieu entre les uns et les autres en ce moment devraient accélérer, permettre une véritable reprise des relations. Nous sommes parfois opposés sur l'Union européenne en fonction des positions prises par le président de la République tchèque. Il faudrait qu'une nouvelle phase plus calme, plus harmonieuse, maintenant que le référendum est derrière nous et que le projet de constitution européenne est derrière nous et je pense ne sera pas repris, et qu'il soit d'ailleurs plus conforme peut-être à ce que souhaite la République tchèque, c'est-à-dire une union de peuples libres coopérant entre eux sans remettre en cause la souveraineté nationale. C'est possible. Chacun a ses opinions. Monsieur Klaus les a exprimées clairement. Le rejet du référendum en France et aux Pays-Bas, en un certain sens, lui a donné raison. Et c'est donc une nouvelle étape de l'Union européenne qui se profile, et cette nouvelle étape devrait permettre à l'ensemble des autorités tchèques de comprendre que maintenant, elles ont toute leur place dans une Europe que nous forgerons ensemble.
C'est pour la première fois que le public tchèque a eu l'occasion d'entendre ce dimanche la suite symphonique d'Olivier Messiaen intitulée « Des canyons aux étoiles », œuvre qui marie les grands élans mystiques avec le chant d'oiseaux. On y trouve tous les aspects du style de Messiaen, style d'une profonde originalité qui a marqué la musique du XXe siècle. L'œuvre a été exécutée par le Prague Philharmonia et plusieurs solistes invités placés sous la direction de Michel Świerczewski. Ce dernier a répondu à l'issue du concert à quelques questions de Václav Richter.
Peut-on résumer par les mots cette immense composition que vous venez de présenter au public pragois?
C'est surtout une immense fresque, donc qui décrit ces merveilleux canyons de l'Utah et dans lequel Messiaen a placé tous les oiseaux qu'il pouvait en fait, puisqu'il y a les oiseaux d'Amérique du Nord bien sûr, mais il y a aussi les oiseaux exotiques et les oiseaux d'Australie, etc., etc. Et en fait aussi, je pense qu'il y a un énorme côté spirituel à la pièce.
Comment l'orchestre a accueilli cette composition? Est-ce que les musiciens ont été découverts découragé d'abord par les instruments exotiques et l'immense complexité de cette œuvre.
Tout dépend. Vous savez, depuis un an maintenant, avec Prague Philharmonia, nous faisons un gros travail pour, disons, que la musique du XXe siècle, la musique contemporaine, s'installe à Prague. Donc, beaucoup de musiciens ont déjà participé non seulement à la saison de l'abonnement S qui se passe au théâtre Schwanda à Smiehoff, mais aussi donc l'orchestre a fait la création d'une pièce nouvelle de Tristan Murail l'année dernière que nous avons jouée à Marseille en création mondiale, qui est une pièce merveilleuse pour ensemble électronique qui s'appelle Pour adoucir le cours du temps, que nous allons reprendre à Prague d'ailleurs en février. Donc il y a déjà une habitude qui s'installe, un savoir-faire. Alors évidemment, bon, comme dans tous les ensembles, il y a des musiciens qui aiment cette musique, il y en a d'autres qui sont plus ou moins indifférents, puis il y en a qui la rejettent aussi. Mais tous les participants, en tout cas, à l'œuvre, à la création de cette œuvre ici à Prague, ont donné vraiment le maximum de ce qu'ils pouvaient donner, je pense.
Olivier Messiaen, de son vivant, surveillait les exécutions de ses œuvres dans le monde. Il confiait surtout les instruments solistes à sa femme et aux membres de sa famille. Où avez-vous trouvé, vous, les solistes de cette soirée?
Donc moi j'ai une grande expérience aussi de cette musique et j'ai aussi travaillé avec Messiaen personnellement sur certaines de ses pièces. Et puis bon, les deux solistes français qui sont venus sont très loin d'être des novices dans ce répertoire. Le percussionniste Frédéric Doma joue avec la plupart des grands ensembles de musique contemporaine en France et aussi à l'étranger. Il a son propre ensemble de percussion. Et Cédric Thiberguien actuellement met beaucoup de pièces de Messiaen à son répertoire. Il vient de jouer Turangali à la Norddeutscher Rundfunk de Hambourg. La semaine prochaine, il la joue avec l'Orchestre National de France. Bon, c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de ce répertoire.
Je crois qu'il y avait aussi une soliste tchèque.
Bien sûr, la première corniste de l'orchestre, c'est une partie très importante. Et elle a travaillé absolument merveilleusement. Des mois qu'elle travaille cette partition et je pense qu'elle s'en est très très bien sortie.
Dimanche, le pape Benoît XVI a remis le prix Auschwitz de Jean-Paul II à Stefan Wilkanowicz, membre de la conférence épiscopale polonaise pour un dialogue avec le judaïsme, et à Václav Mali, une figure de la révolution de velours aujourd'hui président du Conseil pour la justice et la paix de la conférence épiscopale tchèque. Plus d'informations avec Alexis Rosenzweig.
Selon le porte-parole de la conférence épiscopale tchèque, le prix remis à Václav Mali est décerné à ceux qui perpétuent la tradition et les idées liées à la paix et aux droits de l'homme prônées par Jean-Paul II dans un discours prononcé en 1979 dans l'enceinte du camp d'extermination d'Auschwitz. Attribués par l'Institut d'Auschwitz pour les droits de l'homme, les prix ont été remis à Rome par le pape Benoît XVI avant une réception à l'ambassade polonaise au Vatican en présence de l'ambassadeur tchèque. Dans le passé, Václav Mali s'est vu interdire par le régime communiste de servir en tant que prêtre de la fin des années 70 jusqu'à la révolution de velours, une révolution au cours de laquelle il a joué un rôle actif. Évêque depuis 1997, il a déjà obtenu le prix du cardinal Koenig, prix européen des droits de l'homme, en 1999. Âgé aujourd'hui de 55 ans, Václav Mali continue de s'engager pour la défense de ses droits dans le monde entier, et surtout dans les pays où se sont maintenus des régimes totalitaires, notamment à Cuba, en Biélorussie et en Moldavie. Cette année, celui qui est surnommé l'évêque volant a choisi de se rendre incognito en Chine pour observer, rencontrer et témoigner. Je sais d'expérience à quel point il est important pour les personnes enfermées ou persécutées de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger, écrivait Václav Mali après son voyage dans l'hebdomadaire Respect. Nous sommes parfois en contact par email, mais l'isolement de certains est terrible. Je les aide à briser cet isolement et je paie ma dette, concluait-il.
C'était donc le tour d'horizon de l'actualité tchèque. Notre programme se poursuit.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Salut à tous. Tennis, football et patinage artistique sont au programme aujourd'hui de cette rubrique sportive très riche. En tennis, Nicole Vaidichova a remporté dimanche à Bangkok son troisième tournoi consécutif. Première joueuse de la saison, a gagné 3 titres de suite en 3 semaines. L'étoile montante du tennis tchèque et mondial confirme ainsi à 16 ans tous les espoirs placés en elle. En football, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Pavel Nedved, qui avait mis un terme à sa carrière internationale après l'Euro 2004, a annoncé qu'il était prêt à revenir en sélection pour les prochains matchs de barrage contre la Norvège, qualificatif à la Coupe du Monde. En patinage artistique, enfin, le couple français Marina Anissina et Gwendal Pezera, sacré champion olympique de danse aux derniers Jeux de Salt Lake City en 2002, et la multiple championne d'Europe Surya Bonaly, ont effectué plusieurs exhibitions en République tchèque la semaine dernière. Avant leur spectacle à Prague, ils se sont confiés au micro de Radio Prague. Nous les écouterons en fin d'émission. Depuis l'américaine Lindsay Davenport en juillet 2004, aucune autre joueuse du circuit professionnel WTA n'avait réalisé une telle performance, remporter 3 tournois consécutivement en 3 semaines. C'est pourtant ce que vient de réaliser Nicole Vaidishova en Thaïlande, dernière étape de sa tournée asiatique. Après ses victoires à Séoul le 2 octobre et Tokyo le 9 octobre, la jeune tchèque a confirmé sa forme étincelante à Bangkok en battant en finale en 3-7 la russe Nadia Petrova, 9e joueuse mondiale et tête de série numéro 1 de l'épreuve. Grâce à ce nouveau succès, Vaidishova s'est adjugé le 5e titre de sa carrière. Ce succès devrait également lui permettre de grimper à la 17e place au classement de la WTA. Cette fois, c'est officiel. Pavel Nedved s'est dit prêt vendredi à reporter le maillot de l'équipe nationale de football si le sélectionneur Karel Brückner faisait appel à lui pour les 2 prochains matchs de la République tchèque contre la Norvège en barrage de qualification à la Coupe du Monde. Cet ultime rebondissement marque donc la fin d'une incroyable affaire depuis que le Ballon d'Or 2003 avait annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière internationale peu de temps après le championnat d'Europe 2004 au Portugal. À l'époque, au lendemain de la demi-finale perdue 1-0 en prolongation contre la Grèce, demi-finale qu'il avait vu quitter le terrain prématurément sur une civière, le capitaine de la sélection avait déclaré vouloir se consacrer entièrement à son club, la Juventus de Turin, invoquant pour cela des blessures à répétition et les critiques formulées à son égard par une presse tchèque qui n'a jamais goûté que très modérément ses manières de diva italienne et avec laquelle le milieu de terrain a toujours entretenu des relations pour le moins très compliquées. Mais si son caractère difficile lui était reproché, ses qualités sur le terrain et son influence en tant que leader sur l'équipe n'ont-elles jamais été remises en cause? Du coup, lorsque Pavel Nedved a déclaré vendredi aux médias italiens vouloir aider son pays à se qualifier pour la Coupe du Monde, la nouvelle a été plutôt bien accueillie par l'ensemble du football tchèque. Rappelons que si Pavel Nedved, à 33 ans, a participé à 3 phases finales du championnat d'Europe, il n'a en revanche jamais disputé la Coupe du Monde, la dernière participation des Tchèques remontant à 1990 sous le drapeau tchécoslovaque. Champions on Ice, les champions sur la glace de la troupe américaine de patineurs professionnels, étaient présents en République tchèque la semaine dernière. Et parmi la pléiade d'anciens champions olympiques du monde et d'Europe se trouvait notamment le couple français composé de Marina Anissina et Gwendal Pezera, sacrés en danse au dernier jeu de Salt Lake City, et la multiple championne d'Europe Surya Bonaly. Nous les avons rencontrés la veille de leur exhibition, mercredi dernier, devant le nombreux public pragois de l'ultramoderne Saska Arena. Marina Anissina et Gwendal Pezera, qui avaient été médaillés d'argent au championnat d'Europe de Prague en 1999, nous ont tout d'abord expliqué quelles étaient les principales différences entre leur vie de patineur amateur et professionnel.
C'est pas la même chose, c'est complètement 2 choses différentes, les compétitions et le monde professionnel. C'est plus de spectacles, c'est plus de... On n'a pas le même stress, on a bien sûr le stress autant que les artistes qui vont venir sur la scène, mais pas le stress d'objectif ou perfection qu'on doit avoir pendant la compétition.
La préparation est-elle identique, alors tant au niveau physique qu'au niveau de la danse?
Par rapport aux compétitions, les exhibitions demandent beaucoup, beaucoup moins de travail. C'est pas le même engagement technique et physique. On est là avant tout pour faire plaisir au public, pas pour remplir un cahier des charges imposé par des juges. Donc c'est pas le même engagement à l'entraînement et c'est beaucoup plus de plaisir et moins de souffrance.
Au-delà du titre olympique, si le couple composé de Marina, russe d'origine, et Gwendal est devenu si populaire auprès du public, c'est entre autres grâce au caractère très différent des deux danseurs. Peu avant le spectacle, la presse tchèque avait ainsi présenté Pézera comme un aventurier et Anissina comme une intellectuelle plus calme et posée. Une présentation qui surprenait quelque peu Gwendal Pézera.
C'est un petit peu curieux parce que là vous avez dit qu'on voyait Marina comme quelqu'un de calme et posé et moi comme un aventurier, et ça c'est plutôt une image qui est arrivée depuis la fin de notre carrière en tant que compétiteur, parce que en fait sur toute notre carrière de compétiteur c'était plutôt l'autre image qui apparaissait, où Marina avec son tempérament fougueux avait cette image de feu dans le couple, et moi c'était plutôt l'image du calme et on avait tendance à dire que c'était l'eau et le feu. En fait, ce qu'on voit justement, si c'était cette image qui passe aujourd'hui, c'est qu'on est très complémentaires et qu'à chaque fois, on apporte au couple quelque chose de différent par nos caractères différents. Et c'est ce qui fait un peu la richesse du couple Marina Gwendal.
Tempérament de feu et popularité, tout cela Surya Bonaly connaît aussi. 12 ans après son titre de vice-champion du monde acquis à Prague en 1993, la réunionnaise, aujourd'hui naturalisée américaine, reste l'une des rares, sinon la seule patineuse de couleur à avoir évolué à un aussi haut niveau sur les patinoires. Passée professionnelle depuis plusieurs années, Surya Bonaly, qui fut aussi la première femme à placer un salto arrière dans son programme en compétition, reste bien consciente de ce qui fait sa particularité.
Ah oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est pour certains endroits, je veux dire, ça pourrait peut-être être un peu dur ou gênant, mais pour ça, pour le patinage, pour moi, c'est vrai que j'ai la chance, parce que j'ai la chance que les gens me reconnaissent plus facilement et se rappellent de moi pour longtemps, parce que c'est vrai que pour l'instant, je suis la seule depuis longtemps, et puis depuis pour l'instant, il n'y a personne derrière moi de patineuse de couleur, et c'est vrai que je patine à travers le monde entier, et c'est vrai que c'est un peu un petit plus, quoi. Et dans les pays européens, je crois que je suis bien acceptée et les gens m'adorent, quoi. Donc c'est sympa de venir évoluer ici, quoi.
Voilà, c'est la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention. Tout de suite, place à la musique.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Au XVIIIe siècle, la Bohème a donné à l'Europe toute une pléiade d'excellents musiciens dont certains sont connus encore aujourd'hui, d'autres sont quasi oubliés. Cependant, le pays était trop petit pour un si grand nombre de musiciens de talent. Le compositeur Jan Zach était de ces nombreux musiciens tchèques qui ont été obligés de s'expatrier et se sont imposés à l'étranger. Né en 1699 et mort en 1773, ce disciple de Bohuslav Matěj Černohorský, né dans la ville de Čelákovice en Bohême centrale, chante d'abord dans le chœur de l'église Saint-Jacques à Prague, pour devenir ensuite organiste de l'église Saint-Martin dans les Murs. Lorsqu'il n'arrive pas à obtenir le poste d'organiste de la cathédrale Saint-Guy au château de Prague, Jan Zach décide de partir en Allemagne. Entre les années 1746 et 1756, il dirige l'orchestre de cour à Mayence. Plus tard, il se rend en Italie. Selon ses contemporains, il a un caractère difficile, ce qui explique son licenciement à Mayence, où il a été directeur musical à la cour du prince électeur Friedrich Karl von Hochstein. Remplacé par un autre tchèque, Jan Michal Schmidt, Jan Zach voyage par la suite, se produisant pratiquement dans tous les centres musicaux importants d'Europe centrale, comme chef, comme organiste ou comme claveciniste. Cependant, il n'est pas seulement un excellent interprète de la musique des autres, mais aussi un compositeur prolifique. Le catalogue de ses œuvres, qui se sont conservées jusqu'à notre temps, comprend une centaine d'œuvres d'église et 53 compositions profanes, dont 14 concerto pour divers instruments, flûte, hautbois, violoncelle, clavecin et 21 symphonies. Jan Zach est le maître de la mélodie. Il n'atteint pas la profondeur de son condisciple František Ignác Tuma, mais son œuvre ne cesse de nous émouvoir par la grâce de son langage musical, d'une richesse mélodique inépuisable. Voici le troisième mouvement, Tempo di Menuetto, de la symphonie en La majeur pour cordes. L'ensemble Orchestra Puellarum Pragensis est placé sous la direction de Vladimir Valek. Présenté le compositeur tchèque du XVIIIe siècle, Jan Zach. Z-A-C-H, je répète, Z-A-C-H. L'émission en langue française de Radio Prague est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen